bonsoir.
Bonsoir. La révolution arabe s'invite parfois en Suisse. Les Syriens de la diaspora se déchirent entre opposants et partisans du régime El-Assad. À Genève, une réunion de soutien au président syrien vient d'être annulée. Difficile parfois de comprendre, vu d'ici, qu'on puisse soutenir un régime dictatorial. Deux Syriens de Suisse en débattent ce soir en direct dans notre studio de Genève. Jean Gauvrier et Taoufik Chama sont en direct avec nous en ce début d'émission. Pascal Couchepin est notre invité pour sa chronique. On parlera des conséquences politiques, du massacre en Norvège. Et puis on évoquera la situation périlleuse de la Suisse et de sa monnaie, le franc, plus dépendant que jamais des déboires de l'euro ou du dollar. Le dollar, parlons-en, un livre annonçait la fin de cette monnaie il y a quelques semaines. Miretzaki, son auteur, avait récolté un beau succès de librairie, mais aussi pas mal de colibets de ses confrères. Or, l'Amérique, aujourd'hui, n'a plus que quelques jours à peine pour éviter un défaut de paiement. Les faits sont-ils en train de lui donner raison à Miretzaki? Elle va en débattre tout à l'heure avec Jérôme Schoup. Ce sera dans une vingtaine de minutes. Il avait écrit les pages les plus brillantes du football suisse. Jackie Fatton, l'attaquant légendaire de l'équipe suisse et du Servette FC, est mort à l'âge de 85 ans. On évoquera tout à l'heure son parcours avec Jacques Ducret. Une autre page de football également dans ce forum, dans un tout autre genre. Neuchâtel-Xamax, un nouvel entraîneur. Jusqu'à quand? C'est toute la question. Le club doit mourir pour renaître, disait ce matin sur nos ondes l'éthicien Denis Muller. Le propriétaire tchétchène licencie à tour de bras, mais il engage aussi. Alain Thévaud nous appelle en direct de Neuchâtel. Avec le chercheur Sébastien Salerno, on s'étonnera de la torpeur estivale qui saisit certains partis politiques suisses, dont les responsables sont souvent en vacances, bien mérités certes, mais un peu risqués en cette année électorale. Nous entendrons aussi un témoignage rare, celui d'un journaliste qui revient à l'instant du sud de la Libye, Zintan. Il y était aux côtés des insurgés, une expérience dure, aux côtés de ceux qui combattent Kadhafi. Thibaut Cavaillès nous rejoint en direct vers 18h40. Et puis en cet été 2011, c'est l'un des fondements de l'identité suisse qui est remise en cause, l'utilisation du deuxième pilier pour financer l'achat d'un logement. La pratique pourrait être restreinte, voire supprimée au nom de la sécurité des retraites. C'est un débat qui concerne à peu près tous les Suisses qui rêvent un jour de devenir propriétaires. Deux politiques en débattent, Thérèse Meyer et Jean-François Rime. Ce sera à 18h45. Si vous partez en vacances la semaine prochaine, vous aurez fait le bon choix. Les températures resteront fraîches ces prochains jours. La journée de demain sera pluvieuse. Il fera 21 degrés au grand maximum. Même temps jeudi, la météo d'Edmé Fleury à la fin de ce forum.
Forum, Nathalie Ducommun, Philippe Reva.
Il y a des partisans du régime syrien en Suisse. Ils sont actifs. Une réunion qu'ils voulaient tenir demain soir à Gentour dans le canton de Genève a été annulée. Annulée par la mairie qui craignait la polémique. Les diasporas syriennes pro et anti-Assad s'affrontent à coups de communiqués aujourd'hui. Deux représentants de chaque camp sont avec nous en direct de notre studio de Genève. Jean Gauvrier, organisateur de la réunion de Gentour, favorable au gouvernement syrien. Et puis Taoufik Chama, qu'on a déjà reçu sur nos ondes, médecin à Genève opposé au régime. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Jean Gauvrier, tout d'abord, réunion interdite, réunion annulée, votre réaction?
Ni l'un ni l'autre, je suis désolé de vous le dire comme ça, et j'en suis ravi. En fait, l'endroit, la réunion à l'endroit où il était supposé se tenir, effectivement a été annulée. Donc ce que nous avons fait, c'est de changer l'endroit, et la réunion se tiendra à l'heure prévue, le programme prévu, les personnes invitées prévues, rien ne change. Seul l'endroit le change. Je tiens simplement, si vous me donnez encore deux secondes pour finir avec la question de cette réunion. Ce matin, effectivement, à l'édition de 12h30, l'information complète n'a pas été donnée, malheureusement, peut-être par manque de temps.
Alors,
en fait, la mairie et plus précisément donc l'église protestante qui est propriétaire des lieux a annulé la réunion dans l'endroit prévu. C'est vrai, ce qui a manqué et qui est très 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 important à nos yeux, c'est sous la pression énorme effectivement de ceux qui s'appellent opposants, qui ont envoyer des réclamations, des lettres, etc. à tout le monde. Donc ça, c'est quand même très 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 important.
C'est important
ça
de le dire. Pas... C'est très, pas spontané, très Jean Gauvrier. Oui, mais ça a été dit à 12h30 d'ailleurs. J'ai entendu le papier de notre confrère Pierre-Antoine Préti. C'est suite à des pressions, des réclamations des opposants syriens que cette réunion, que cette réunion a été annulée ou déplacée sur le mandat de la mairie. Jean Gauvrier, la question spontanée que se posent tous les Suisses qui regardent les actualités, qui écoutent les informations à la télévision, qui lisent les journaux, comment est-ce qu'on peut être pour le régime Assad après les massacres, après la répression?
Voilà. Alors là, déjà, Monsieur Don, mais c'est, je le comprends aussi, il y a cette manière de, d'affirmer toujours comment vous pouvez soutenir un régime dictatorial qui massacre. Je ne suis pas en train, bien évidemment, d'analyser vos propos mot pour mot. C'est juste pour vous dire comment vous affirmez une attitude, pour ma part, dans mon cas. On affirme que moi personnellement ainsi que les personnes qui ont le même avis ou plus ou moins le même avis que moi, nous soutenons un régime dictatorial qui massacre sa population.
Ce n'est pas le cas.
Ce n'est pas véritablement le cas. Nous soutenons pas un régime dictatorial qui massacre sa population. Nous sommes très simplement, très très simplement, pas plus que ça, des personnes. On me l'a reproché souvent, mais c'est pas grave. Je le répète, Suisse, d'origine syrienne, qui défendons de la ruine, j'hésite pas à le dire, le pays qui les a vus naître, pas plus que ça.
Vous avez peur, alors, en quelque sorte, de ce qui va suivre, hein. Vous avez peur de ce qui pourrait remplacer le régime al-Assad. Puis là, je me tourne vers Taoufik Chama, qui lui est opposé à ce gouvernement. C'est ce qu'on entend beaucoup, même aussi des minorités chrétiennes. En Syrie, on a peur de ce qu'il y aura à la place d'Assad. Vous comprenez ça?
Oui, bien sûr, je comprends ça, mais ça fait 40 ans qu'ils nous chantent la même chanson. 40-50 ans d'immobilisme et politique et économique et socioculturel. Le pays ne peut plus continuer. Nous allons vers une catastrophe autrement, qui est une catastrophe pas seulement politique, mais une catastrophe économique, une catastrophe humanitaire. Si ça continue comme ça, bah, effectivement, les Syriens vont migrer. Tous comme moi, c'est pas possible. On peut pas faire en sorte que les Syriens qui ont fini par quitter il y a 30 ans comme moi et qui ne peuvent plus rentrer, qu'on donne les mêmes possibilités ou n'offrir que ce choix de quitter le pays. On peut pas laisser le pays à un régime ou tout simplement à un pouvoir et à un parti.
Taoufik Chama, il est en face de vous, Jean Gauvrier, qui lui soutient le régime al-Assad. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire, les yeux dans les yeux, dans le studio de Genève?
Écoutez, oui. Moi je vous remercie de cette occasion. Effectivement, moi j'avais dit et redit plusieurs fois, je n'ai jamais fait de la politique pendant 30 ans. J'ai considéré qu'à l'époque, quand j'ai quitté le pays, il y avait des circonstances qui ne correspondaient pas à mes inspirations. J'ai fait de la médecine pendant 30 ans. Je ne suis pas là pour représenter un quelconque courant. Je suis là pour présenter vraiment tous les Syriens et pas seulement les opposants. On est un seul peuple et il est temps qu'on puisse vivre tous en liberté, qu'on accepte l'expression libre et la vie de l'autre, même s'il n'est pas d'accord avec le parti basse, même s'il ne veut pas penser de la même manière. Il est temps, avec tous et pour tous, qu'on puisse se respecter et qu'on se parle pas avec et sous les menaces des Shabiha et des forces de sécurité et de l'armée. Pas qu'on dit un mot et on soit en prison. C'est pas possible que ça continue et ça continue depuis 40 ans.
Jean Gauvrier, voilà. Et ça continue avec le régime al-Assad. Est-ce qu'il ne faut pas qu'il tombe ce régime? C'est ce que vous dit Taoufik Chama.
Oui, alors là, de nouveau, ça c'est typique. Je suis très très content, Monsieur Chama, de vous entendre dire ce que j'appelle le mini-discours. C'est toujours le mini-discours, mais les faits sont beaucoup plus importants. Qu'a dit Monsieur Chama depuis le début de son intervention? Il a parlé de catastrophe économique, peut-être catastrophe politique, il a parlé de tout. Il n'a pas prononcé une seule fois dans ses revendications les mots liberté et démocratie. C'est curieux quand même, on parle maintenant d'économie et de politique. À ce propos, je signale qu'avant les problèmes, je suis économiste de formation. Tous les chiffres vous montreront effectivement que la Syrie était parmi les pays du Moyen-Orient qui étaient les mieux placés économiquement parlant. Effectivement, c'est un tout petit peu moins bien maintenant. Deuxième remarque sur le discours de Monsieur Chama, qui est très très intéressant d'ailleurs. Il est curieux qu'il puisse appeler effectivement au dialogue. J'ai bien entendu ce qu'il a dit. Monsieur Chama, j'ai bien entendu, au dialogue, la démocratie c'est écouter l'avis de l'autre, et vous venez de signer il n'y a même pas 24 heures cette lettre co-signée demandant l'interdiction aux gens de nous écouter. C'est fantastique.
Je suis absolument d'accord. Je suis absolument pour l'interdiction d'un monologue. Mm-hmm. Je ne vois pas qu'on prétende à un débat et on ne fait pas une porte ouverte. Moi, personnellement, j'ai participé à une conférence devant le Parti socialiste lausannois. La porte était ouverte et monsieur est venu et il était effectivement libre de s'exprimer. Il a pu s'exprimer devant moi. Aujourd'hui, on invite à un soi-disant débat public pour... soi-disant des opposants qu'on ne connaît pas et personne ne peut entrer sans invitation. Faites-moi cette invitation et je serai le premier à soutenir votre débat demain.
Jean Gabriel.
Oui, alors c'est totalement faux, M. Chama. De nouveau, nous avons annoncé dès le départ qu'il s'agit d'une conférence débat. Nous avons annoncé dès le départ qu'il s'agit effectivement, pour des raisons que vous connaissez très 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 bien, c'est notre non-accès total à l'information et aux médias, qu'il s'agit d'une conférence débat destinée prioritairement, on ne s'en le cache pas, hein, aux médias, à quelques personnalités politiques, c'est ce qui ne nous a pas du tout empêché d'adresser des invitations à des gens de votre bord, à ceux qui vous soutiennent. Je peux vous citer des noms, mais ça serait indécent de ma part de le dire.
Pourquoi ?
Non.
L'ouverture est franche, une transparence.
Oui, bah, je peux vous citer Monsieur Ouardiri, je peux vous citer Monsieur Oussami.
Attendez, Monsieur Ouardiri n'est pas syrien. Il n'est pas de mon bord. Je ne parle pas de bord. Monsieur Ouardiri n'est pas syrien. Vous n'allez pas parler de la Syrie avec un non-syrien.
Attendez.
Monsieur Ouardiri, il manifeste avec tous ceux qui s'opposent à la dictature. Il n'est pas syrien. On parle de la Syrie ce soir, monsieur.
Nous avons invité monsieur Oussami, que vous connaissez très très bien aussi.
Et monsieur Oussami, oui. qui représentait la Syrie dans certains médias, où il appartient à la famille Oussami, qui est du parti basse.
Pas vraiment, je vous laisse consulter ces dernières publications.
Alors, si vous le permettez, Jean Gabriel, Taoufik Chama, parce qu'on va s'y perdre avec ces noms, pour rester peut-être, mais plus généralement, et moins peut-être sur le cas de cette conférence qui a été déplacée à Genève, vous disiez que Taoufik Chama disait qu'il ne parlait pas de liberté d'expression. Moi, je l'ai entendu dire, oui, il faut de la liberté d'expression en Syrie. Vous en parlez pour Genève, là, avec Al-Assad, c'est impossible en Syrie, c'est impossible à Damas. Jean Gauvrier, comment vous pouvez défendre ça ?
Pardon, mais je le réfute. Et les événements, de nouveau, tout ça, c'est des entendus. Tout le monde croit que c'est le cas. Je souligne qu'il y a quand même une conférence qui a duré sur 3 jours en Syrie, où tout le monde a été convié, tout le monde, j'insiste bien, tout le monde. Alors si on refuse d'y aller, ça c'est son problème. Où tout le monde a pu, devant les médias du monde entier, toutes les télévisions du monde entier, ont transmis minute par minute cette conférence. Personne ne peut prétendre, Monsieur Chama, je vous le dis amicalement, si quelqu'un a pu être empêché de dire ce qu'il veut.
Taoufik Chama, c'est à vous.
Oui.
Si vous prétendez que c'est ouvert, je sais que les médias suisses essayent de faire un reportage porte ouverte carrément en Syrie. Mm-hmm. Je vous prends au mot.
Oui.
On va reproduire ce débat en Syrie et on ira sous les auspices du gouvernement suisse et des médias suisses pour reproduire ce débat en Syrie, à Damas, à travers la télévision et la radio syrienne. Et je viendrai avec vous sous la protection et de la Suisse et des médias suisses. Est-ce que vous allez organiser ça ?
Alors,
oui, Jean Gauvrier, la question, on vous écoute. Il y a beaucoup de monde qui vous écoute. Là.
Alors, écoutez, j'irai avec vous où vous voulez, Monsieur Chama. Je discuterai avec. J'irai où vous voulez en Syrie.
Avec
les médias suisses.
Ils sont interdits pour l'instant, Jean Gauvrier, en Syrie.
Écoutez, ouvrez la porte et on vient.
Écoutez, de nouveau, voyez, ça, c'est le deuxième point. On me parle comme si j'étais le représentant d'une instance. Je ne le suis pas, monsieur. Je ne le suis pas, vous le savez très très bien. J'ai insisté chaque fois là-dessus. Je ne représente que moi-même. Et
mais vous soutenez
tout de
même ce
gouvernement. Accessoirement,
vous ne pouvez pas défendre un régime que vous ne représentez pas si vous voulez défendre ses idées et ses positions. Donc si vous défendez la position de la transparence du régime, défendez la position de la réalité de la transparence. Vous ne pouvez pas défendre la théorie et pas la pratique.
Alors,
vous dites que le régime est transparent, on y va.
Oui, je peux vous dire simplement, les journalistes peuvent faire leur demande. Et à ma connaissance, pas vraiment.
Jean-Claude, et pourtant, c'est pas ce qu'on entend. C'est pas ce qu'on voit en pratique. Je vous remercie beaucoup, Jean Gauvrier. Vous êtes organisateur de cette réunion pour le gouvernement.
Le collectif des Syriens de Suisse.
Voilà.
J'insiste là-dessus.
Pro-Assad à Genève. Et puis Taoufik Chama.
Pas pro-Assad, pro-Syrie.
Voilà, pro-Syrie, dirigé par Assad jusqu'ici. Et puis Taoufik Chama. Voilà. Merci beaucoup, messieurs. Une excellente soirée du côté de Genève. Au revoir.
Et en football, les joueurs de Neuchâtel Xamax ont donc repris le chemin de l'entraînement aujourd'hui. Ils n'avaient pas pu le faire hier puisque le staff xamaxien, l'entraîneur, était licencié. Cette séance s'est déroulée en fin d'après-midi au stade de la Maladière sous les ordres du Neuchâtelois Christophe Moulin, qui est donc directeur général du club. Mais Alain Thévaux, vous qui avez suivi cet entraînement, la nouvelle du jour, c'est, ça y est, il y a un nouvel entraîneur à Neuchâtel Xamax.
Oui, effectivement, un nouvel entraîneur. L'entraînement, d'ailleurs, vient de se terminer. Et peut-être pour le comble, c'est que les joueurs n'étaient même pas informés de la nomination du nouvel entraîneur qui va débarquer ce soir et qui dirigera l'équipe pour la première fois demain. Cet entraîneur a pour nom Joaquín Caparrós. Il est âgé de 56 ans. C'est un entraîneur espagnol qui a passé les 4 dernières saisons à Bilbao, qui a également entraîné Deportivo La Corogne, qui a passé 5 ans à Séville, 2 ans à Villarreal, 13 saisons en première division espagnole, en Liga espagnole, 381 matchs dans cette catégorie de jeu. Il a également l'expérience de l'Europa League, donc c'est vraiment une belle trouvaille de Boulat Tchagaïev. On sait qu'il aura pour mission de tenter de faire gagner Neuchâtel Xamax. La question est aussi de savoir finalement combien de temps va-t-il tenir. Est-ce qu'on va lui accorder du temps, parce que les entraîneurs précédents n'avaient tenu que 2 matchs. On pense à François Cicolini et à Sonny Anderson. Andrei Rudakov a rétorqué non pas 2 matchs mais 2 mois, parce qu'ils ont également eu droit à préparer cette équipe de Neuchâtel Xamax, de procéder aux engagements et aussi à la préparation pour cette nouvelle saison. Donc voilà, en ce qui concerne le nouvel entraîneur, peut-être autre information, Andrei Rudakov, le désormais ex-président, a tenu à mettre les points sur les i. C'est lui qui a demandé à être déchargé de sa fonction de président. Il est désormais vice-président du club et il est en charge du recrutement des joueurs. C'est lui qui a communiqué le nom du nouvel entraîneur. C'est aussi lui, lorsqu'il nous a accordé l'interview, qui a appris aux responsables de la communication de Neuchâtel Xamax que le club de la Manalière venait d'engager un nouvel entraîneur. Donc il y a vraiment des problèmes de communication à Neuchâtel Xamax. C'est Boulat Tchagaïev qui dirige de A à Z cette formation qui, on le rappelle, occupe le dernier rang après 2 journées de championnat, n'a marqué aucun but, 5 buts encaissés, 0 point. Donc Neuchâtel Xamax qui va jouer une partie très importante, capitale, dimanche sur son terrain face aux Sessions.
Sous les ordres de Joaquín Caparrós. Donc, je vous remercie beaucoup, Alain Thévaux, en direct de Neuchâtel. Et le plaisir d'accueillir ce soir Jacques Ducret. Bonsoir.
Bonsoir.
Grand spécialiste du football suisse. Vous êtes avec nous pour évoquer le décès de Jackie Fatton. Mais évidemment, on est obligé de vous poser la question suite aux événements à Xamax. Qu'est-ce que vous pensez? Déjà, vous connaissez ce Joaquín Caparrós, cet entraîneur espagnol?
Non, je me flatte de bien connaître le football, mais là, non, je connais pas. Mais vous savez, ils en sortent leur chapeau tous les jours un autre. Moi, j'ai une pensée avec Gilbert Facchinetti. Pendant plus de 8 années, il a fait confiance à un seul entraîneur, à Gilbert Grèce. Et je pense que maintenant, ce qu'il vit, ça doit être très difficile à supporter.
Le football suisse a beaucoup changé, Jacques Ducret.
Bah, c'est Neuchâtel Xamax qui a beaucoup changé.
Le football, hein. Servette aussi.
Oui, mais enfin, je veux dire, Servette, elle retrouve sa place au sein de l'élite. Non, mais ce qui se passe à Neuchâtel, ça, franchement, c'est ahurissant.
Alors, on verra ce que Joaquín Caparrós pourra faire, et puis s'il restera suffisamment longtemps pour faire quelque chose. Jacques Ducret, on en vient au footballeur genevois, ouais. Jackie Fatton, décédé hier à Genève, l'âge de 85 ans. Il aurait vraiment été l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football suisse. Un bref résumé de son parcours international à 53 reprises entre 1946 et 55. Parmi ses plus belles prouesses, celle où l'attaquant du Servette fut le héros du match de la Coupe du Monde, c'est en 1950 à Sao Paulo, contre le Brésil. Il marque 2 buts, ce qui a permis à la Suisse d'obtenir le nul 2-2. Un Suisse qui marque 2 buts contre le Brésil, c'était une autre époque.
Oui, mais enfin, la Suisse a obtenu d'autres résultats contre le Brésil. Non, mais c'est vrai que Jackie Fatton est un personnage exceptionnel.
Qu'est-ce qui faisait justement sa particularité? Qu'est-ce qu'il avait de si avantageux pour arriver à de tels résultats?
Je dirais que comme footballeur, il a eu 2 vies. Tout d'abord, il était un ailier type. de débordement, il avait un shoot, il avait un tir puissant et très précis, et à Genève, au Servette, il bénéficiait de l'appui de Lulu Pasteur, qui était un intérieur à l'époque, on jouait vraiment avec 5 attaquants, donc c'était un régal. Et puis, il a eu une reconversion en fin de carrière, a passé la trentaine, il est devenu le stratège de l'équipe. Ça, j'ai rarement vu un joueur, disons, se transformer de telle façon.
Stratège de l'équipe, c'est lui qui emmenait tout le monde, qui faisait l'entraîneur.
Vous voyez, donc ils ont fait le titre en 61-62 grâce en grande partie à sa clairvoyance, son abattage et je dirais l'autorité qu'il exerçait, l'ascendant qu'il exerçait sur ses partenaires.
Bon, il a vraiment marqué l'histoire du Servette. 17 ans dans le même club, 274 buts, c'est un record qui n'est toujours pas égalé. Il continuait à aller voir les matchs à la Praille, il a vibré pour la montée de Servette.
Mais vous savez, il était malade depuis 3 ans à peu près. Moi, je le voyais venir, il venait encore au stade. Il est venu à la Praille, mais il était bien diminué ces dernières années.
Jacques Fatton, décédé à l'âge de 85 ans. Je vous remercie beaucoup, Jacques Ducret, de lui avoir rendu hommage ce soir.
Voilà.
Je vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Et dans ce forum, il est à peu près exactement 18h21.
Le temps retrouvé, la chronique de Pascal Couchepin.
Bonsoir Pascal Couchepin.
Bonsoir Philippe Roy.
Votre chronique un mardi sur deux, bon un peu moins pendant les vacances, on reprend un rythme pratiquement automnal, un mardi sur deux avec vous dès ce soir. Alors Pascal Couchepin, le franc qui monte, l'euro, le dollar en pleine tourmente, autant d'épées de Damoclès qui pèsent sur nos têtes, c'est de ça que vous nous parlez ce soir?
Alors je crois que ça vaut la peine d'en parler une fois encore, on en a beaucoup parlé ces derniers temps, mais il faut faire le point régulièrement. La semaine passée, les dirigeants européens ont réussi à trouver un accord pour stabiliser, dans tous les cas à titre provisoire, la situation de la Grèce. Ils ont aussi mis sur pied des instruments pour faire face à de nouvelles attaques contre l'un ou l'autre des pays, ou plutôt des dettes l'un ou l'autre des pays de l'Union européenne, l'Irlande, le Portugal, voire l'Italie ou la Belgique, l'Espagne. Est-ce que ces instruments sont suffisants? L'histoire le dira, mais je crois que c'est un bon pas qui a été fait. Mais déjà, on a d'autres frissons. Dû à la négociation qui se passe maintenant entre le président Obama et l'opposition républicaine aux États-Unis pour élever le plafond de la dette. On sait que s'ils ne parviennent pas à un accord, c'est la roulette russe. Ça peut marcher, mais ça peut aussi être mortel. Et puis lorsqu'on aura passé ce cap, même si on aura réussi un certain nombre d'étapes, il y aura d'autres risques. Pensons peut-être à la dette, plutôt aux créances chinoises. La Chine probablement devra assainir ses établissements bancaires qui ont beaucoup de dettes douteuses. Les provinces sont très endettées. Il y a des risques aussi de ce côté-là. Et d'autres pays peuvent provoquer un accident. Alors, le franc suisse restera fort, mais il risque d'avoir des variations de valeur, ce qui n'est pas très sain non plus. Que peut-on faire? Moi, je crois que...
Rien.
L'ampleur de la tâche est si lourde au plan international qu'on ne peut pas artificiellement ou par une décision politique freiner la hausse du franc suisse. On peut espérer que ça stabilise, que le franc suisse perde une partie de sa valeur, mais ne reviendra pas aux valeurs antérieures. Ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire, c'est continuer à lutter pour que cette hausse du franc suisse se répercute sur les plans suisses, sur les prix suisses.
Ça n'y arrive pas, hein, Pascal Couchepin.
Oui, mais je constate que beaucoup de prix en Suisse sont bloqués. Alors on peut dire politiquement c'est nécessaire ou pas. Les prix agricoles sont bloqués, les prix des transports publics sont bloqués. Une petite ouverture des prix des soins hospitaliers est prévue pour l'an prochain, mais une petite ouverture et certains voudraient déjà revenir en arrière. Et puis il y a cette immense contradiction qui est de vouloir introduire dans un secteur particulier celui du livre le prix fixe, c'est-à-dire que non seulement on ne veut pas ouvrir à la concurrence ce secteur, mais on veut bloquer les prix. Alors, les Suisses doivent choisir une fois, est-ce qu'ils veulent réellement une baisse des prix, auquel cas il y a de la concurrence, il faut de la concurrence, y compris dans des domaines plus délicats, ou bien ils veulent rester au point où ils en sont, c'est-à-dire que la baisse de l'euro, la baisse du dollar, ne se répercute pas sur les prix suisses.
La concurrence, Pascal Couchepin, ça peut résoudre ce problème des prix trop hauts en Suisse alors que l'euro baisse, parce qu'on voit la commission de la concurrence impuissante, il y a ces cartels verticaux, on a beaucoup de peine à casser tout ça.
Oui, bien sûr. Et je peux le dire d'expérience. Lorsqu'on a cherché à modifier la loi qui est maintenant entrée en vigueur sous la concurrence, il y avait une opposition féroce de tous les milieux intéressés. Et regardez dans le domaine du prix du livre, bien qu'il n'y a aucun argument rationnel pour maintenir le prix fixe du livre, il y a des arguments émotionnels qui sont, à mon avis, faux du point de vue économique, qui ne permettront pas de répondre aux besoins de la branche du livre, à laquelle je tiens beaucoup, en Suisse comme ailleurs. Mais malgré tout, les Suisses, pris devant la réalité, n'osent pas faire le pas qui est celui du risque positif de la concurrence.
C'est encore la faute des Suisses, Pascal Couchepin.
Bon, la faute des Suisses, oui et non. Je pense que c'est, on va pas faire une théorie du complot et chercher des responsables des îlots de vie chère en Suisse, aux États-Unis, en France ou en Italie. Nous sommes quand même responsables, fort heureusement encore, de notre politique économique.
Pascal Couchepin, ça questionne aussi le statut de la Suisse comme petit pays indépendant avec une monnaie forte, une économie assez forte, mais tout de même, on est une sorte de nain entre ces deux géants que peuvent être la zone euro, la zone dollar, et puis on est ballotté sans trop de moyens de contrôler tout ça. Est-ce que c'est viable à long terme? Est-ce que ça impose pas une adhésion à l'Union, au pire moment d'ailleurs, parce qu'elle se porte plutôt mal, l'Union, en ce moment?
Alors, moi, j'ai toujours été d'avis que l'adhésion à l'Union européenne n'est pas pour demain. Je crois que l'opinion publique suisse est absolument opposée. Mais je pense que l'un des risques de devoir adhérer à l'Union européenne proviendrait peut-être des fluctuations de la monnaie suisse trop fortes.
Mais on y est, là?
Non. Pour l'instant, on va dans un seul sens. On va vers le renchérissement du franc suisse, mais je crois que c'est pas bien, c'est difficile, ça rend la vie des entreprises difficile, la vie du milieu touristique extrêmement difficile. Je pense que tout le monde en est conscient cette année. Mais c'est encore moins dangereux que des fluctuations à la hausse et à la baisse, qui seraient incontrôlables et dans laquelle plus personne ne pourrait avoir une stratégie à moyen terme. Je crois que pour l'instant, on est dans une situation désagréable, mauvaise, mais pas catastrophique dans la mesure où on va plutôt régulièrement vers la hausse du franc suisse, la stabilisation à haut niveau du franc suisse, mais gare au jour où on aura des hausses et des chutes dues à des fluctuations des marchés internationaux à l'égard du franc suisse.
Pascal Couchepin, dans notre studio de Genève, nous a rejoint Mireille Zaki, auteur de ce livre « La fin du dollar ». C'était une sorte de prémonition très argumentée, qui lui a valu d'ailleurs pas mal de réactions. On va débattre tout à l'heure de ce qui se passe aux États-Unis. Vous avez, elle est là au studio de Genève. Vous avez l'impression qu'elle va dans le bon sens en prévoyant le pire pour le dollar avec ce qui se passe, le problème de la dette aux États-Unis. Vous êtes aussi pessimiste qu'elle, Pascal Couchepin?
Non, je crois que les États-Unis, c'est Churchill qui a dit une fois, la force des États-Unis, c'est qu'après avoir essayé toutes les mauvaises solutions, ils finissent par adopter la bonne solution. Et je pense aussi que les États-Unis vont finir par trouver une solution pour le problème du déficit budgétaire. Ce sera une solution qui passe par une augmentation d'impôts et une diminution très importante des dépenses de l'État américain. Mais je crois qu'ils ont le sens des responsabilités. Et puis s'ils ne le font pas, alors leurs créanciers, notamment les créanciers chinois, risquent de se fâcher et la situation alors deviendrait dramatique. Face à cette situation, en général, les démocraties réagissent à la fin rationnellement. La démocratie américaine certainement réagira intelligemment à la fin, mais tout à la fin.
Ouais, ben on va en débattre tout à l'heure avec Mireille Zaki et Jérôme Schoub. Une dernière question pour vous, Pascal Couchepin, ce qui s'est passé en Norvège. On a beaucoup parlé d'un climat en Europe, les extrêmes droites, les populismes, les droites nationalistes identitaires qui auraient, par leur discours, favorisé ce qui s'est passé, cet acte de folie en Norvège. Vous êtes d'accord avec ce lien qu'on peut tirer, direct ou indirect?
Ouais, je crois que chaque fois qu'on fantasme, chaque fois qu'on délire sur un risque, lorsqu'on fait de l'antisémitisme, lorsqu'on fait du racisme, lorsqu'on fait du rejet systématique d'un groupe religieux, social, politique, ethnique, on crée chez des gens qui sont susceptibles d'être déséquilibrés, on crée une situation dans laquelle ils ont l'impression, comme ce jeune Norvégien, de devenir des héros d'une cause qui les dépasse et qui les pousse à commettre un épouvantable carnage, comme ce fut le cas en Norvège. Je crois que les hommes politiques, en particulier doivent être extrêmement prudents et ne peuvent pas, par démagogie, faire briller des dangers qui n'existent pas ou n'existent pas, en tous les cas, dans l'ampleur qu'ils décrivent.
Vous pensez à l'UDC quand vous dites ça?
Oh, je pense à tous ceux qui partent en croisade contre l'islam, comme si l'islam était une menace. Je crois que la menace pour nos pays, pour la civilisation chrétienne, comme ils disent, bah, c'est tout simplement la perte de conviction des Suisses et des Européens. Mais on va pas contenir l'islam en forçant les gens à adhérer à quelque chose auquel ils n'adhèrent plus.
Moi, j'ai cru comprendre que vous évoquiez l'UDC, alors si je comprends bien, vous avez
peut-être une contradiction. Moi, j'ai toujours dénoncé ceux qui, comme je crois que l'Évangile parle des sépulcres blanchis, voudraient rétablir des signes de christianisme alors que ça ne correspond à rien pour ceux qui sont dans la rue et qui constatent tout le problème. Par exemple, les pays dans les cantons catholiques du crucifié en classe est un problème qui est complètement abstrait dans la mesure où la plupart des parents d'élèves sont indifférents à l'existence ou non du crucifix dans les classes. Moi, je n'ai rien contre les crucifix dans les classes, mais il ne faut pas en faire un objet de croisade et de bataille.
Bah, je vous remercie beaucoup, Pascal Couchepin. Je crois que c'était assez clair, vos propos, votre chronique. Un mardi sur deux dans ce forum. La prochaine fois, dans deux semaines, on vous retrouve?
J'espère qu'entre-temps, on aura un peu de soleil et que on pourra parler de choses plus agréables que celles dont on a à parler lorsqu'on parle des crises monétaires.
Mais je suis sûr que vous en trouvez un petit peu du soleil là où vous êtes en ce moment, Pascal Couchepin.
Oui, certainement. En tous les cas, je fais de belles promenades.
Bonne soirée à vous, au revoir.
Merci, bonne soirée.
Infotrafic RSR.
De forts ralentissements restent observés sur l'autoroute Genève-Lausanne entre l'échangeur du Vengeron et la jonction de Coppet en direction de Lausanne. Et puis on en parlait avec Pascal Couchepin, il reste 7 jours aux États-Unis pour relever le plafond de la dette et éviter un hypothétique défaut de paiement. La dette dépasse les 14 milliards de dollars déjà. Les investisseurs se détournent du dollar, il est même passé sous la barre des 80 centimes suisses ce matin. Mireille Zaki est avec nous, rédactrice en chef adjointe de Bilan, auteur de ce fameux livre « La fin du dollar ». Bonsoir Mireille Zaki.
Bonsoir.
Vous avez écouté courageusement et silencieusement Pascal Couchepin tout à l'heure. Jérôme Choup nous a rejoint, responsable de la recherche à la banque CIS. Bonsoir Jérôme Choup.
Oui, bonsoir.
Mireille Zaki, vous avez l'impression que c'est votre scénario qui se confirme aujourd'hui avec ce qui arrive, les légers problèmes qui affectent les États-Unis en ce moment?
C'est-à-dire, oui, tout à fait. J'avais, en travaillant sur le livre il y a déjà 10 mois, j'ai un petit peu vécu tout ça. C'est cet échelonnement d'événements-là qui allait mener vers une déclaration de faillite. On est vraiment tout au bord, là. Et probablement que le délai, d'ailleurs, du 2 août va pas être respecté. Ils vont devoir prolonger l'échéance parce qu'ils ne se seront pas mis d'accord à temps pour changer la loi pour le relèvement de ce fameux plafond de la dette.
Oui, mais ils vont pas tomber en faillite, les États-Unis, Mireille Zaki.
Écoutez, c'est étonnant comment les Républicains, cette fois, seraient prêts à envisager ce scénario. Ça, c'est la grande surprise, j'avoue. Je ne pensais pas que les Républicains étaient prêts à mettre en péril l'image et le statut des États-Unis. Ils sont finalement eux-mêmes, l'ennemi, en fait, est à l'intérieur. C'est-à-dire, c'est le désaccord entre les deux parties, l'incapacité à se mettre d'accord. Alors que c'est absolument urgentissime, ça ne devrait même pas être discuté. C'est le moment qui appelle une union totale de vues pour s'accorder sur ce plan. Et ils n'y arrivent pourtant pas. Et on voit donc que l'effet des divergences partisanes, des lobbies à l'interne pour surtout pas relever les impôts pour les plus riches, pour pas trop réduire les dépenses, bloque la situation à un moment où on est dans une sorte de TGV qui va à 400 à l'heure dans un mur et on est encore en train de parlementer sur ci ou ça, alors qu'il faudrait une solution totale, une solution vraiment. Il s'agit de vraiment sauver la solvabilité des États-Unis, son statut de superpuissance économique et le statut du dollar comme monnaie de réserve et d'éviter une crise majeure de la dette. Malgré l'incapacité des agences de notation de reconnaître la gravité de la situation est grave.
Jérôme Choup, on va vers le pire avec les États-Unis si on suit Mireille Zaki.
Bah, c'est vrai que la situation est relativement incertaine. Ce qui est intéressant de constater, c'est que si on parle de défaut, on devrait voir les obligations ou les taux américains qui montent beaucoup, hein, comme lorsqu'on parlait de défaut sur la Grèce ou du Portugal et vous aviez les taux qui explosaient. Et ce n'est pas du tout le cas. Hein. Le rendement des obligations américaines est ridiculement bas. Par contre, effectivement, la défiance se fait sur le dollar. Donc on a un dollar assez faible actuellement contre le franc suisse, bien entendu, et aussi contre l'euro.
La fin du dollar, Jérôme Choup?
Non, je pense pas, parce qu'il n'y a pas d'alternative pour le moment crédible au dollar. Hein. On peut pas remplacer le dollar par l'euro. Les Européens ont suffisamment de problèmes par eux-mêmes. Et les autres monnaies, le dollar canadien, australien, le franc suisse, la sterling, le yen, n'ont pas assez de profondeur, notamment sur le marché obligataire. Donc, à moyen terme, en tout cas, il n'y a pas d'alternative.
Miretzaki, il n'y a pas d'alternative au dollar.
Certainement qu'il y a des alternatives. Ce qu'il faut quand on conseille des investisseurs et quand on est même un citoyen qui veut être informé à l'avance, c'est de regarder les tendances. Il y a aujourd'hui des alternatives qui se dessinent. Elles ne se sont pas encore imposées, mais le yuan a été déjà promis par le gouvernement chinois comme monnaie de référence internationale.
On en est loin.
2030. Ouais. Oh, on en est loin, mais il ne faut pas sous-estimer les Chinois. Le yuan est déjà la monnaie qui domine à Hong Kong. C'est un pays, Hong Kong, où le yuan est en train de vivre son expérience d'internationalisation. Il y a un marché international de la dette en yuan. Vous seriez surpris, il y a des caisses de pension ici. Je ne vois ce qui vient dire comment investir en yuan. Les gens commencent à s'y intéresser. C'est vrai que c'est encore embryonnaire, bien sûr. Le yuan est très, très, très loin d'atteindre un statut de monnaie du G7. Mais une crise de la dette américaine pourrait vraiment accélérer le processus. Il faut voir ce qui se passe dans le monde quand, par exemple, la Chine et la Russie échangent des biens commerciaux uniquement dans leur propre monnaie, en yuan et en rouble, et excluent le dollar de leurs échanges commerciaux. Alors, il y a les pays émergents qui constituent 65%, les deux tiers du commerce mondial, qui commencent à aller plus vers leur propre monnaie, à délaisser un peu le dollar. La demande mondiale en dollars est en train de se réduire fortement. Il faut voir ce qui est en germe. Moi, je pense que quand on décide, parce que déjà aujourd'hui, les investisseurs ont tous perdu près de 9% sur leurs placements en dollars, ceux qui sont basés en francs suisses. Donc, il faut déjà comprendre que conseiller le marché américain comme un placement sûr était déjà très malvenu au début de cette année.
Avec les États-Unis, on a toujours l'impression qu'il y a un double standard. Hein. C'est tout ce qui arrive aux États-Unis est un peu différent. On ne le juge pas de la même façon. Ils peuvent se permettre certaines choses que d'autres pays ne peuvent pas se permettre. Absolument. Vous êtes quand même d'accord avec ça?
Absolument d'accord avec vous. J'ai consacré un chapitre à ce côté-là qui constitue un raisonnement. Les États-Unis sont au-dessus de la mêlée, comme a dit Pascal Couchepin. Ils trouvent toujours une solution finalement. Ça, c'est un très beau scénario de film hollywoodien. Mais dans la réalité, ce n'est pas rationnel. Ce pays est vraiment le plus endetté de tous, celui qui constitue de loin le plus grand risque systémique planétaire. Il n'y a aucun doute et c'est un risque intolérable pour les investisseurs, tous ceux qui ont des actifs en dollars. Et ça, je pense que si on conseille des clients, on doit absolument le dire et le voir.
Mais Jérôme Choupe, alors comment est-ce que vous argumentez pour dire que ce ne sera pas la catastrophe annoncée, notamment par Miretzaki. Qu'est-ce qui fait que les États-Unis s'en sortent quand même, toujours, entre guillemets?
Bon, comme l'a dit M. Couchepin, hein, c'est des gens pragmatiques, donc on devrait quand même avoir une solution. Est-ce que ça sera avant le 2 août? Ça, ce n'est pas évident. Hein. Donc ça, je rejoins Miretzaki, c'est possible qu'on ait une solution qui intervienne quelques jours après. Ça veut dire que peut-être pendant quelques jours, les États-Unis soient annoncés comme défaut. Mais c'est vrai que l'endettement est important. Hein. L'endettement par rapport au produit intérieur brut des États-Unis est légèrement supérieur à l'ensemble de la zone euro. Par contre, les Américains ont souvent la capacité de la diminuer. C'était le cas sous Bush, où l'endettement était élevé. Et sous l'ère Clinton, par contre, les excédents budgétaires avaient été très, très importants. Donc la capacité de rebond de l'économie américaine est nettement meilleure que celle que l'on connaît en moyenne en Europe.
Mais Miretzaki?
Mais donc je pense que Jérôme sait mieux que moi que la croissance aux États-Unis n'a pas été au rendez-vous. C'était ça le grand espoir qui aurait dû aider cette capacité de rebond légendaire des États-Unis. Elle n'est pas venue parce que la politique monétaire a connu une dérive incroyable. Il n'y a pas eu de vraie politique de croissance, mais uniquement une politique de dévaluation du dollar qui va coûter bientôt au dollar son statut de monnaie de référence si ce n'est pas déjà fait. Et je dirais que par rapport à ce qu'a remarqué Jérôme, le marché de la dette américaine est effectivement très stable avec des taux à 10 ans totalement bas, 3,5%, 4%, rien du tout. Eh bien, tout ça est aujourd'hui largement lié au fait que les agences de notation n'ont pas du tout reconnu la gravité de la situation et continuent de noter 3A, une dette qui est hautement risquée, spéculative, en déliquescence. Enfin, l'information financière est extrêmement faussée. On donne une information hautement trompeuse aux investisseurs. Et par exemple, par rapport aux chiffres de l'inflation américaine, c'est complètement faux. Les chiffres officiels ne reflètent pas du tout la réalité de l'hyperinflation que connaît aujourd'hui le citoyen américain, je veux dire son pouvoir d'achat, par rapport à il y a plusieurs années, ce qu'un dollar acheté il y a plusieurs années et aujourd'hui, ça n'a absolument rien à voir. Mais les chiffres officiels de l'inflation ne le reflètent pas, donc ils sont totalement trompeurs.
Miretzaki, vous mentionnez justement le triple A pour les États-Unis. On reçoit une dépêche à l'instant de Reuters qui a fait un sondage. Une majorité d'économistes prévoient que la fin du triple A pour les États-Unis. Jérôme Schoup, si ça tombe avant le 2 août, ça va quand même forcer les républicains et les démocrates. On a beaucoup décrit le rôle des agences de notation, mais là, ça pourrait vraiment les forcer à arriver à un accord. Ça pourrait changer les choses.
Ça devrait, j'espère. Ce qui est important de signaler, c'est qu'il y a beaucoup de pays dont le triple A est menacé. À moyen terme, la France devrait aussi le perdre, hein, parce qu'il y a des déficits budgétaires depuis 25 ans. Même dans les bonnes années économiques, ils n'arrivent pas à dégager un excédent. La Grande-Bretagne aussi, elle le sent très bien. Elle a lancé un plan de mesures de baisse de coûts absolument massive. Donc il va rester quasiment plus personne. Et là, la pression est maximale maintenant sur les États-Unis. On n'a plus droit à l'erreur. Mais c'est le cas aussi de l'Union européenne. C'est ça la difficulté maintenant, c'est que tous les gouvernements, tant en Europe qu'aux États-Unis, sont sous une pression absolument incroyable.
Alors, si je conclue ce débat, je vous pose une question, Mireille Zaki. L'argent, il faut le mettre où si on en a sous le matelas aujourd'hui? C'est encore le plus sûr.
Alors là, je vais dire quelque chose que Jérôme ne va certainement pas suivre, c'est-à-dire moi je crois très fort à la solvabilité de l'Union européenne en tant que bloc. Bon, lui, il a déjà noté que son endettement global était inférieur à celui des États-Unis.
Ça, c'est assez original ce que vous dites là.
Oui, alors moi je crois que non seulement l'euro va rebondir, mais il va devenir une monnaie forte. Il est déjà une monnaie forte contre le dollar, et c'est important de le rappeler, il est à 1,45 contre le dollar, alors que plein de hedge funds et de fonds spéculatifs avaient parié sur la parité euro et dollar déjà à la fin de l'année dernière. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Donc l'euro est plus fort que le dollar. Je pense qu'il va rebondir et qu'il sera la deuxième monnaie forte avec le yuan chinois. Mais moi, je parle à 10-20 ans et il est très important d'anticiper. On ne peut pas aujourd'hui voir la situation des 20 dernières années comme étant celle qui va être les 20 prochaines années. Absolument pas. Ensuite, je pense que les États-Unis ne sont absolument pas un triple A, mais ça, c'est déjà vrai depuis une année. Donc il ne faut pas regarder ce que disent les agences de notation. Mais elles-mêmes, les agences de notation américaines, si elles passent à l'action et réduisent la notation, elles ont déjà dit que le dollar perdrait du même coup son statut de monnaie de réserve internationale.
Je vous remercie beaucoup, Mireille Zaki. La fin du leurre, votre livre. Tiens, on vous réinvite dans 6 mois pour voir où on en est exactement. Ça va peut-être finir par arriver, qui sait. Jérôme Schoup également. Merci.
Bonsoir.
Bonne soirée. Au revoir.
Merci.
Les vacances d'été, c'est sacré. Même en année d'élection fédérale, même quand on est candidat, c'est une sorte d'exception suisse dans le paysage politique européen. C'est du moins l'analyse de Sébastien Salerno. Il est chercheur en communication politique à l'Université de Genève. On l'a joint tout à l'heure. Il fait une intéressante comparaison entre cet été 2011 et celui de 2007 où la politique suisse n'avait probablement jamais été autant polarisée. Et c'est au fond le retour au calme et à la tradition. Sébastien Salerno.
Alors il y a effectivement un respect de la pause estivale dans les partis politiques suisses, et c'est vrai que ce respect de la pause estivale, ou que cette pause estivale elle-même, elle tombe mal, parce que les élections législatives en Suisse, elles sont en octobre, et donc les partis politiques ensuite, ils ont pour faire leur campagne nationale septembre et octobre.
Mais 2 mois, c'est trop court, vous trouvez ?
2 mois, c'est court parce que ça donne beaucoup d'importance aux campagnes individuelles. Et donc, ça fait s'adosser les candidates et les candidats à des machines électorales ou à des associations, à des lobbies. C'est compliqué pour les partis parce qu'ils doivent organiser à la fois la campagne collective, la campagne du parti, et les campagnes individuelles. Donc, effectivement, ça individualise les campagnes et donc ça personnalise les campagnes et la vie politique.
Et parfois, ça la rend plus passionnante, non, quand elle est personnalisée, la politique ?
Ça, j'en sais rien. Ça,
mais Sébastien Salerno, quand vous dites que c'est compliqué pour les partis, du coup ça tient qu'à eux de changer les choses et puis de décider que dorénavant les pauses estivales en politique suisse sont plus courtes et puis que la rentrée politique dès la fin juillet elle commence. Ils pourraient le décider, pourquoi ils ne le font pas?
Alors effectivement ils pourraient le décider. Alors, on a des exemples, d'abord on peut citer des exemples. Il y a des événements sportifs en Suisse, des événements culturels qui donne la possibilité aux candidates et aux candidats effectivement de se montrer et puis d'avoir un discours politique. Et c'est pas le cas. Au fond, il n'y a pas cette idée de populariser la vie politique en Suisse. Mais vous avez raison, et les partis politiques pourraient ne pas respecter la pause, et en même temps, les premiers représentants des partis politiques, c'est-à-dire les présidents des partis, voire même les conseillers fédéraux, pourraient ne pas la respecter. Et on a un exemple assez unique, c'est l'été 2007. Il y a 4 ans, en été, effectivement, cette pause, elle n'a pas été respectée. C'est-à-dire qu'en 2007, on a un combat entre l'UDC et le PS, comme on va l'avoir à la rentrée, mais avec toute une série d'éléments qui sont des éléments, on va dire, médiagéniques. On a un ministre de l'Intérieur qui est Christophe Blocher, une ministre des Affaires étrangères ou de l'Extérieur qui est Micheline Calmiret, un homme, une femme, un hellémanique, une romande, etc., etc. Et donc on a une opposition de style entre ces deux représentants des deux partis qui font cette polarisation, cette vie politique, et qui va marquer tout l'été. C'est pas du tout le cas de l'été 2011. Alors on attend évidemment le 1er août et voir de quelle façon il va y avoir une utilisation du 1er août, mais on a l'impression que jusqu'à maintenant, il n'y a pas cette envie finalement de marquer l'été, d'occuper le terrain pendant l'été 2011. L'impression qu'on a, c'est qu'au fond, il y a eu cette période 2007-2011 qui a été marquée par à la fois une très grande polarisation et aussi l'idée qu'il fallait en revenir, qu'il fallait revenir à une politique peut-être moins agressive. C'est ce qu'ont dit nombre d'élus fédéraux qui ont pris leur retraite. Hein. Et c'est pas simplement un discours que l'on retrouve dans la bouche des élus fédéraux, mais c'est aussi un discours qu'on a chez les médias eux-mêmes. On a dit, par exemple, que les grandes émissions de débats politiques télévisés, Arena en Suisse alémanique ou Infrarouge, étaient peut-être des émissions où il y avait un trop grand affrontement et qu'il fallait revenir, au fond, à une vie politique médiatisée qui soit peut-être aussi un peu plus assagie, qu'il fallait un peu baisser la pression. Il y a encore l'idée très fortement ancrée au sein du personnel politique qui, finalement, se renouvelle assez peu, que la popularité, c'est pas du potentiel électoral. Qu'on peut être très populaire, notamment dans les médias, mais qu'au fond, il y a des retombées électorales peu importantes. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas du tout en vogue dans d'autres pays. Dans d'autres pays, on vous dira, plus on est populaire, plus c'est du potentiel électoral. Et il faut faire marcher cette coïncidence. En Suisse, on n'en est pas là.
En Suisse, on n'en est pas là. Sébastien Salerno, département de communication politique à l'Université de Genève. Thibaut Cavaillès, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. Vous êtes l'un de nos correspondants habituellement basés au Maroc, mais vous avez passé les deux dernières semaines auprès des rebelles libyens à Zintan, dans le Djebel Nefoussa, non loin de la frontière tunisienne. Alors, votre témoignage ce soir, alors qu'on précisera que l'offensive des rebelles pour se rapprocher de Tripoli semble marquer le pas. Selon le chef d'état-major interarmée américaine, l'opération de l'OTAN serait actuellement dans une impasse. Mais enfin, il y a quand même de l'optimisme sur le long terme, affirme l'OTAN. Quelle était la situation du coup à Zintan ?
Bah écoutez, c'était en effet très calme, c'est-à-dire que tous les jours on nous annonçait une grosse offensive sur la ville de Guerian, qui est un peu plus vers Tripoli, c'est le dernier gros point avant Tripoli, et chaque jour on attendait, et en effet il ne s'est rien passé. Bon, le matin sur le front à hauteur de Gualiche, c'est-à-dire à une quarantaine de bornes, de kilomètres, à l'est de Zintan où je me trouvais, il y avait quelques tirs de roquettes de part et d'autre, mais rien de vrai, pas une grosse offensive, et du coup, bah c'était un peu l'attente hein, pour ces rebelles qui gardent le moral, qui gardent espoir, mais qui étaient donc dans l'attente d'une grosse opération sous la coordination bien sûr de l'OTAN.
Alors justement, leur attitude en général par rapport à l'OTAN, quelle est-elle ? On a eu vent évidemment au début, il y a eu quelques bavures, on se disait si ça continue, ça va peut-être desservir la cause pour eux. Comment est-ce qu'ils sont satisfaits eux des entreprises de l'OTAN ?
Alors oui, déjà, bon, je vais quand même limiter ma parole à ce que j'ai pu voir, constater, moi, dans l'ouest du pays, hein, dans le Djebel Nefoussa, tous ceux que j'ai vus, en tout cas, saluer l'OTAN, saluer Nicolas Sarkozy. Alors, pour ma part, je suis français, donc c'était très facile d'avoir accès à ces gens-là.
Et paraît que c'est une star, carrément, Nicolas Sarkozy.
Ah oui, non, mais s'il se proposait de présenter aux élections après Kadhafi, je pense qu'il serait élu. Je pense même qu'il y aura des petits Nicolas qui vont naître dans les mois à venir. Mais voilà, donc non, l'OTAN, pas du tout mal vu. Et en plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y avait de la part du régime de Kadhafi, de la propagande anti-OTAN. Et je vais vous donner un exemple. Dans les hôpitaux à Tripoli, par exemple, après un accident de voiture qui avait fait, un exemple, 8 personnes tuées, un accident de la route comme il peut y en avoir tout le temps, le régime Kadhafi faisait croire aux journalistes invités par ses soins, faisait croire que c'était là des victimes de tirs de l'OTAN, ce qui n'était pas vrai, selon les médecins qui après ont pu s'exprimer une fois, après avoir fui donc Tripoli.
Thibaut Cavaillès, les opérations de l'OTAN, et puis on a beaucoup parlé aussi de la livraison éventuellement d'armes, est-ce qu'ils les reçoivent, est-ce qu'ils sont ravitaillés, et puis est-ce qu'ils sont mieux organisés ?
Alors, pour la première question, écoutez, moi, je suis allé dans plusieurs points, à Nalout, à Zintane, à Gualiche, à Yefren, enfin, dans plusieurs endroits où il y avait des rebelles, et aucun, m'a affirmé avoir reçu des armes de la France. La France avait confirmé qu'ils avaient envoyé des armes, mais je ne sais pas où. J'ai demandé à une caserne à Rocheban, ils m'ont dit, bah, écoutez, on peut pas vous répondre. Alors, est-ce que ça veut dire qu'ils les ont reçus, eux, je ne sais pas. En tout cas, moi, je n'ai pas vu de rebelles qui avaient vu ces parachutes tomber. Mais voilà, et pour la deuxième question, ben, ils essaient de s'organiser. Ils ne sont pas vraiment bien organisés. Ce ne sont pas des soldats, ces combattants. Ce sont des jeunes étudiants, des enseignants, des commerçants. Ils ont 20 ans, ils n'ont jamais 20 ans ou plus. Ils n'ont jamais touché une arme auparavant. Et non, il y a des erreurs. Il y a des erreurs, par exemple, ils fabriquent eux-mêmes leur lance-roquettes. Ils tirent un peu n'importe où. Il y a aussi des fois des erreurs de manipulation. L'autre jour, sur un poste de contrôle, il y a un homme qui a tiré 3 balles comme ça, sans faire exprès. Bon, pas de blessé, mais personne ne l'a puni, ne l'a engueulé, personne ne s'en est étonné finalement. C'est presque normal que de ne pas maîtriser. Mais il y a cette volonté, cette fougue, cette foi qui font que, bah, que malgré tout, ils arrivent à prendre un peu du terrain. Alors ça prend plus de temps qu'on ne le pensait, mais ils arrivent quand même à maintenir leur position et ils essaient de s'organiser. Alors là, il y a des soldats, des militaires de Benghazi qui viennent former les jeunes, des anciens militaires de l'armée Kadhafi qui ont fait défection et qui sont venus, qui viennent former les jeunes au tir. Donc petit à petit, ça s'améliore finalement.
Thibaut Cavaillès, en un mot final peut-être, est-ce que vous êtes optimiste sur une issue proche de ce conflit ?
Bah écoutez, moi personnellement, je ne saurais m'exprimer. Après, je peux vous voir. Bon, les gens y croient. Alors après, les rebelles là-bas y croient. Mais après, il y a deux options. Il y a l'option, le CNT évoque pourquoi pas laisser Kadhafi dans le pays sans aucun rôle politique, le mettre de côté sous surveillance. Ça, c'est une option qu'envisage pourquoi pas la direction, la hiérarchie, les plus hautes autorités du CNT, du Conseil national de transition. Mais les rebelles, eux, ne veulent pas en entendre parler. C'est-à-dire même l'exil. Ils ont du mal à l'accepter. Ils veulent Kadhafi mort ou en prison, mais déjà à l'étranger, ils ont du mal à l'accepter, mais encore moins dans leur pays, même s'il restait sous contrôle. Donc l'issue, je ne sais pas si elle va se faire de façon diplomatique, si elle va se faire de façon militaire. J'ai l'impression qu'il y a de moins en moins de soldats pro-Kadhafi, que beaucoup de plus en plus font défection ou se laissent abattre par la situation.
Thibaut Cavaillès, je vous remercie beaucoup pour votre témoignage de retour de 2 semaines auprès des rebelles libyens. Bonne soirée.
Bonne soirée.
Retour en Suisse ou devenir propriétaire d'une maison, d'un appartement pourrait être un rêve qui devient de plus en plus difficile à atteindre. L'idée de limiter le recours au deuxième pilier pour l'achat d'une propriété semble en effet convaincre de plus en plus d'élus. La Confédération s'est en effet aperçue que trop de personnes qui avaient retiré ce deuxième pilier n'avaient plus assez de revenus une fois arrivées à la retraite et donc avaient plus de recours aux aides étatiques. On a 2 invités pour débattre de cette proposition de limiter du coup l'accès aux personnes de moins de 40 ans seulement. La PDC Thérèse Meyer et l'UDC Jean-François Rime. Bonsoir.
Bonsoir.
Thérèse Meyer, il est également question d'autoriser le retrait que d'un quart de la somme globale du deuxième pilier. C'est une vraie institution à laquelle on touche. Beaucoup de Suisses rêvent d'accéder à la propriété comme ça. Vraiment, c'est justifié de limiter cet accès?
Alors je pense que c'est justifié qu'on examine ce problème parce qu'on a vu des cas assez lourds dans les années 90 où les gens avaient retiré une grande partie de leur avoir vieillesse, c'est-à-dire du capital qui leur donnera la rente pour construire une maison. Ensuite les intérêts étaient remontés, ils ont perdu leur maison et leur avoir vieillesse en même temps. Donc plus de logement et plus de moyens d'avoir une rente conséquente à l'âge de la retraite. Et actuellement, on se rend compte qu'il faut trouver un équilibre. Je pense que le Conseil fédéral a fait une proposition qui est assez drastique. Il faudra l'examiner. Je ne suis pas sûre que j'y souscrirai sous cette forme-là. Mais je crois qu'il faut examiner le problème. Parce que si vous imaginez, par exemple, la prévoyance obligatoire, la rente AVS maximum pour un couple, c'est 3 480 francs actuellement. Et la rente LPP, la plus grande que vous pouvez avoir obligatoire, c'est en dessous de 2000 francs actuellement. Donc si vous retirez tout le capital, il y aura une rente qui sera très diminuée. Si vous pouvez n'accumuler une rente qu'entre 50 et 65 ans, vous aurez moins de 1000 francs de rente dans l'obligatoire. C'est vrai qu'il y a de la surobligatoire dans beaucoup de métiers, mais ce sont les chiffres qui disent qu'il faut un peu de prudence.
Jean-François Rime, un peu de prudence. Il faut prévenir plutôt que guérir.
Oh, je pense aussi que ce dossier doit être étudié. Maintenant, je rappellerai quand même deux choses. c'est que le recours aux prestations complémentaires ne vient pas seulement des gens qui ont prélevé leur deuxième pilier pour acheter un appartement ou une maison, mais aussi de gens qui ont prélevé le capital à 65 ans plutôt que la rente et qui ont peut-être spéculé avec ce capital. Mais l'idée de base, c'était quand même qu'en Suisse, on avait très peu de propriétaires. On était à 27 ou 28%. Bon, ce taux a largement évolué ces quelques dernières années.
Grâce à l'accès au deuxième pilier, d'ailleurs.
En partie grâce à l'accès au deuxième pilier. Et aussi au fait que le rendement de ces deuxièmes piliers, naturellement, sont bas. Mmh. Je rappellerai quand même que l'article 108 de la Constitution prévoit justement un encouragement à l'accès à la propriété. Donc, dans ce sens-là, je partagerai en gros l'avis de Thérèse Meyer. Ça veut dire qu'une étude, peut-être des rapports avec certaines statistiques pour voir où il y a des abus, où il y a des corrections, mais en tout cas, un abandon total de cette utilisation, je m'y opposerai totalement.
Moi aussi.
Thérèse Meyer, oui, donc abandonner complètement, mais il faut faire quand même des petites adaptations. C'est rendre plus compliqué les choses, faire des petites adaptations. C'est des dossiers administratifs qui ont un coût aussi.
Non, je crois que c'est la même chose, parce que si vous établissez une règle en disant vous pouvez retirer 30% de votre avoir vieillesse, l'avoir vieillesse, c'est l'avoir qui va vous donner accès à une rente, eh bien c'est clair. Vous savez que vous avez un potentiel pour construire une maison, mais qui n'est pas illimité. Donc, vous êtes obligé de garder un certain avoir pour assurer une rente à l'âge de la retraite. Et M. Rim a très judicieusement parlé des retraits en capital, et ça aussi, ça doit être examiné, parce que c'est assez inconcevable que les gens retirent tout leur capital, le perdent, et ensuite doivent avoir recours à d'autres prestations pour survivre, étant donné que le capital vieillesse, bien sûr, il est fait en partie par la personne elle-même, mais aussi par les entreprises.
On peut vendre sa maison, Thérèse Meyer. Oui, après.
On peut. On pourrait vendre sa maison, mais si on l'a pas. Non, ceux qui retirent tout le capital vieillesse, ils n'achètent pas forcément une maison. Je dis, c'est un autre volet qu'il faudrait examiner. Ceux qui ont utilisé leur capital vieillesse pour acheter une maison, ils pourraient peut-être vendre leur maison, peut-être, mais alors ils devraient payer complètement un loyer en plein, et il faut encore avoir l'occasion peut-être de bien vendre la maison. Et l'idée d'utiliser une partie du capital vieillesse pour faire son logement, c'est pour avoir moins de frais à l'âge de la vieillesse au sujet du logement. C'est ça l'idée, pour pouvoir être propriétaire, parce qu'on veut encourager la propriété, mais aussi avoir un loyer moins grand à l'âge de la retraite.
Jean-François,
permettez encore deux remarques.
Allez-y. Bon,
dans les années 90, il y avait peut-être un problème, c'est que le deuxième pilier obligatoire a été introduit, sauf erreur, en 85. Donc, il y avait des tas de gens qui n'avaient pas eu le deuxième pilier sur la totalité de leur carrière professionnelle. Et puis, deuxième remarque peut-être importante, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui financent 100% des fonds propres par le deuxième pilier. Et ça, je crois que c'est faux.
Ouais.
Il faudrait arriver peut-être à ce qu'ils aient quand même 5 ou 7 ou 8% de fonds propres qui sont des liquidités qu'ils ont épargnées sous une autre forme, de façon à ce qu'ils puissent au moins couvrir les frais d'acquisition ou les frais de notaire ou les droits d'enregistrement. Je crois que c'est dans cette direction-là qu'il faudra aller. Maintenant, on sait que jusqu'à 50 ans, sauf erreur, on peut prélever la totalité de son deuxième pilier. Après 50
jusqu'à
ans, c'est la moitié.
Oui, jusqu'à 3 ans avant l'âge de la retraite, on peut retirer le montant qu'on a accumulé jusqu'à 50 ans.
Ouais. Thérèse Meyer, vous êtes propriétaire.
Les adaptations sont certainement nécessaires. La discussion sera certainement très technique.
Comme souvent sur ce dossier, oui, effectivement. Ouais. Vous êtes propriétaire. Thérèse Meyer, vous êtes propriétaire.
Oui.
Vous avez touché à votre deuxième pilier.
Non.
Ah, vous n'avez pas eu besoin.
Non, mon mari étant indépendant, il a une toute petite partie de deuxième pilier parce qu'il était en grande partie indépendant, donc c'était pas un apport.
Jean-François,
vous êtes conseiller national. On a un deuxième pilier de conseiller national, tout petit.
Maintenant.
Tout petit.
Oui, nouvellement. Oui.
Je vous remercie tous les deux, Thérèse Meyer, conseiller national PDC, et Jean-François Rim, conseiller national UDC, d'avoir évoqué avec nous ce dossier du deuxième pilier. Vraisemblablement, on va vers une limitation. Il faudra voir sous quelles conditions.
Oui.
C'est un des futurs dossiers de la prochaine législation.
Oui.
Merci, au revoir.
Merci. Au revoir.
À 18h58, c'est la météo avec Edmé Fleury.
L'instabilité dominera la météo de nos régions ces prochains jours. Il faudra attendre le début de la semaine prochaine pour retrouver des conditions plus estivales. La journée de demain sera plus humide que celle d'aujourd'hui. En matinée, le ciel sera le plus souvent nuageux, mais quelques éclaircies pourront apparaître par endroits en plaine. Les averses intermittentes concerneront toutes les régions. Elles seront plus fréquentes en montagne et un peu moins marquées en vallée centrale. La limite de la neige se situera vers 2600 mètres d'altitude. Les thermomètres en plaine afficheront un minimum de 11 degrés degrés et un maximum de 18 à 21 degrés. La journée de jeudi sera elle aussi nuageuse. Les pluies intermittentes seront plus nombreuses dans l'après-midi et en montagne. En plaine, quelques brèves éclaircies pourront percer la grisaille par endroits. Les températures plafonneront vers 18 à 21 degrés. Le temps restera variable jusqu'à dimanche.
La météo avec les châteaux de Chillon et Ripaille, deux joyaux de la civilisation savoyarde.
Infotrafic RSR
avec Migros et la pomme de terre Amandine.
Les averses locales, notamment en région genevoise, dégradent les conditions de circulation. Soyez attentifs au risque de dérapage. En ville de Lausanne, un déversement de goudron provoque la fermeture de l'avenue de France. Entre l'avenue de Beaulieu et le chemin de Montétang, les opérations de nettoyage devraient se prolonger durant 2 heures environ. Et puis le trafic est toujours perturbé sur la route principale Aigle-Châteaudet, entre la tranchée couverte de Vuarny et la Frasse, en direction de Châteaudet, en raison d'un accident. Enfin, sur l'axe Quiasso-Lucien, des colonnes s'étendent sur 3 km à l'approche de l'entrée sud du tunnel du Saint-Gothard. On voyage parfois avec les inforoutes en Suisse. C'est un peu des vacances, les inforoutes. Il est bientôt 19h sur la première. Je vous remercie d'avoir suivi cette édition de Forum. Mathieu Balmer et Sylvain Michel, officier, est à la technique. Demain, l'invité du journal du matin, Andreas Gross, le conseiller national socialiste, pour parler de Xamax, notamment. Il est 19h sur la première. Excellente soirée.